Devenir par Synapse, pour devenir la meilleure version de soi-même. Bonjour tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode de Devenir. Ici, nous explorons des sujets qui nous passionnent, le développement personnel et l'entrepreneuriat. Alors mets-toi à l'aise, augmente le volume et sois prêt à avoir l'esprit soufflé.
Bienvenue au podcast de Synapse où on explore l'intersection de l'entrepreneuriat et du développement personnel. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial qui s'appelle Maxime Paradis, qui est très jeune et pourtant a déjà, il a commencé à 15 ans à créer des business, elle a déjà vendu un business pour un chiffre assez significatif et il a lui-même investi dans pas mal de startups, je ne suis pas sûr si c'est 12, 20, j'ai entendu des chiffres différents, mais il nous le dira tout à l'heure. Et c'est quelqu'un qui donc investi, accompagne des entrepreneurs, qui fédère un mouvement Genius Global et qui lui-même maintenant créé J Ventures pour vraiment l'entrepreneuriat avec les étudiants. Donc, très inspirant de t'avoir. Merci Maxime d'être là.
Merci Alex de me recevoir. Très honoré d'être ici.
Est-ce que tu pourrais commencer en nous donnant un peu le background, la trajectoire, d'où tu viens jusqu'à ces 15 ans où tu as commencé l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui s'est passé en gros dans l'enfance, l'adolescence?
Ouais, carrément. Écoute, ouais, ça allait vite. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Je me considère comme entrepreneur et business angel, effectivement. Et j'essaie de démocratiser un peu l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, dans toute la France et un peu au-delà. Et en gros, moi-même, c'est démarré assez jeune. Le truc, c'est que j'ai eu très vite, en fait, la vie a fait que j'ai eu l'envie de m'émanciper assez jeune, de mes parents, de ma famille, de ma condition. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé pour le faire, plutôt que d'aller prendre des petits boulots à droite à gauche qui finalement, eux, ne voulaient même pas de moi, c'était plutôt de lancer mes propres projets. À la fois, ça me permettait de donner un peu plus de sens à ce que je faisais et d'avoir aussi plus d'ambition et de pouvoir vraiment accomplir des choses. Donc, à 15 ans, en fait, j'ai lancé ma première association qui était une association en fait d'événementiel à l'époque où j'étais dans la région un petit peu à côté d'Orléans. Et du coup, l'idée, c'est qu'on organisait des soirées pour les teenagers, pour les étudiants dans la région. Ça marchait pas trop mal. Et du coup, à 16 ans, on l'a converti en entreprise. Et on a continué à le développer, du coup, tout le temps de mon lycée jusqu'à mes 18 ans. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, de vraiment pouvoir subvenir à mes besoins, payer ma vie quotidienne, les amis, etc. Et c'était vraiment ce qui m'a mis le pied à l'étrier, en tout cas, dans l'entrepreneuriat en tant que tel. Ce que j'ai démarré, c'était plus l'idée de faire quelques euros et faire plaisir à mes potes. J'aimais bien faire des soirées, ça marchait pas mal. Et d'autre côté, je pouvais financer ma vie quotidienne. Et en fait, les deux reliés m'ont amené à cette idée de justement créer en fait sa propre vie et à pouvoir s'émanciper tout en ayant un impact positif autour de soi. Donc c'est vraiment là que ça a démarré.
Waouh. Bah déjà, le mot, il est fort. Démocratiser l'esprit d'entreprendre, c'est quelque chose qu'on va explorer plus tard pas mal. Et ce concept d'émancipation au travers de l'entrepreneuriat. Et donc, du coup, toi, tu as commencé vraiment à organiser des soirées. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, c'est les petits boulots, tu ne les voulais pas et tu ne voulais pas vraiment non plus. Et du coup, c'est ça qui t'a poussé sur ce chemin au début.
Ouais, complètement. Je me sentais beaucoup plus libre et j'avais l'impression de servir à quelque chose. Quand je voyais ce que ça apportait aux autres autour de moi, je me disais, OK, là, ça a du sens.
Donc, il y avait deux valeurs derrière ça, la liberté, l'autonomie et aussi le côté de servir, contribuer.
Complètement, ouais.
Et qu'est-ce qui s'est passé entre cette époque et le moment où tu as vendu une entreprise qui est quand même le rêve de beaucoup d'entrepreneurs?
Il s'est passé beaucoup de choses. C'est vrai que ce qu'on peut dire, ce qu'on peut lire, c'est surtout des parcours un peu linéaires où on voit, OK, il a lancé sa première boîte à 15 ans, sa deuxième à 20 ans, il l'a revendue à 24. Et en fait, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi linéaire. L'idée, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses. En gros, moi, à 18 ans, à la petite province orléanaise, j'avais passé un bac S, j'avais des très bonnes notes au bac, mais assez mauvaises en contrôle continu. Donc, en gros, le système des prépas classiques, un peu français, m'ouvrait pas les bras. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré une école post-bac directement à Paris. Donc, à 18 ans, j'arrive avec mon petit baluchon de provincial à Paris. Et là, du coup, je fais 5 ans d'études, donc à l'ESCE Paris, au cours duquel je finirai par avoir un master en commerce international et en finance. Et en fait, pendant ces 5 ans, je vais découper un peu ça. En gros, de 18 à 20 ans, dès que je suis arrivé, c'était vie associative à fond. J'étais passionné justement par l'impact qu'on pouvait avoir avec les associations et cette idée aussi de non-profit, de pouvoir être au service des autres sans les exploiter. Et c'était vraiment cette idée de démocratiser un peu ça. Et donc, du coup, j'ai lancé une asso humanitaire qui s'appelait HOPE à l'époque, HOPE-SCE. On avait du coup 80 personnes et on essayait de faire plein de choses. On faisait des marchés de Noël pour les personnes sans domicile fixe. autour de notre école. On faisait plein de choses. On a essayé de faire des choses aussi pour des orphelinats dans d'autres pays. Donc c'était un peu aussi cette idée de donner qui était au centre. Et en gros, donc de 18 à 20 ans, deux choses. Donc mon asso humanitaire, l'école et aussi les soirées. Donc je payais ma vie en organisant des soirées sur Paris. Donc là, effectivement, l'argent était beaucoup plus rapide à Paris qu'à Orléans. Donc ça me permettait vraiment de soutenir le rythme de vie. Parce qu'effectivement, une école de commerce, ça coûte cher. Et avoir un moyen de se financer pendant ses études, c'est quand même essentiel. Beaucoup d'étudiants sont obligés de prendre des petits boulots. Et je me sentais très favorisé de pouvoir le faire avec quelque chose que j'aimais faire. Donc voilà un petit peu les deux premières années, 18-20 ans. Et après, à 20 ans, on devait faire un stage du coup dans mon école de 6 mois. Moi qui voulais faire un master en finance pour essayer de bien comprendre comment fonctionne le monde. En fait, pourquoi la finance ? C'était pas pour faire des thunes ou être le loup de Wall Street. Au contraire, j'étais fasciné par comprendre comment ça fonctionnait, comment ça s'agençait. J'ai l'impression que vraiment, que ce qu'on disait, moi je viens d'une famille en fait de gauche, de province, mes parents ils sont fonctionnaires, et du coup j'avais vraiment cette vision du monde capitalistique dirigé par la finance, je voulais comprendre pourquoi et comment. Et donc je me suis dit, ok, j'ai envie de rentrer, j'ai envie d'apprendre tout ça, et c'est ce que j'ai appris avec ce master en finance. Et donc je fais mon stage de 6 mois dans une grosse banque, à la Société Générale. Je me dis, ça va être génial, je vais être dans les arcanes noires de ce qu'ils contrôlent. Et du coup, très instructif sur plein de sujets, mais très déceptif sur l'ensemble. Donc j'ai été assez dégoûté en fait du manque de sens, du peu d'épanouissement qu'on avait au niveau personnel et du peu aussi d'ouverture et de diversité sur le monde qu'on pouvait avoir. Donc on était un petit peu un rouage dans une machine, et une fois que tu avais compris les rouages et qu'on te les avait imbriqués dans la tête, c'était vraiment comme une machine à faire tourner le truc, et ça me plaisait pas du tout. Et donc bref, dès que je termine ça, je me dis, ok, c'est mort, j'ai envie de continuer les assos, sauf que les assos, j'ai l'impression d'avoir un plafond de verre. Donc en fait, mon école, tu vois, je lançais des assos dans mon école, et en gros j'étais bloqué. Du coup, je pouvais pas avoir autant d'impact que j'aurais aimé, je pouvais pas aller négocier des partenariats, je pouvais pas recruter plus, je pouvais pas faire plus, et je voulais avoir vraiment un impact plus gros, plus fort. Parce que ceux qui disent, parce que c'est génial d'avoir des initiatives à son échelle, mais si on peut les faire grossir, si on peut embarquer plus de gens avec soi, si on peut vraiment avoir un peu ce multiplicateur au niveau de l'impact, c'est vraiment ce que je recherchais. Et c'est pour ça que j'ai lancé ma première vraie startup du coup à 20 ans, après ce stage, qui s'appelait Mive. Et en gros, je l'ai calé un peu sur ce que j'avais vécu moi-même, c'est-à-dire ce sentiment un peu d'avoir des plafonds de verre, ce sentiment de pas être, qu'on donne pas notre opportunité à tout le monde, et de la même manière cette idée que c'est un peu, que c'est compliqué, et pas forcément pour moi, parce que je m'estime très chanceux dans un monde quand même très très masculin, très blanc, etc. en France, et que je vois des femmes, des personnes de la diversité qui galèrent. Et la vocation de cette startup, c'était aider les gens comme moi, les gens de la diversité, les femmes, à pouvoir mieux s'intégrer au monde et à pouvoir s'émanciper en fait par leur mérite. Donc remettre vraiment cette notion de méritocratie au centre de la ressource humaine. Et l'idée, c'était baser ça sur de la technologie. Donc en gros, moi j'étais étudiant en école de commerce, je me suis dit la technologie c'est le futur, c'était à permettre de justement renverser un peu les systèmes en place et mettre des nouveaux systèmes plutôt positifs. Et du coup, je me suis dit, ok, on va essayer d'utiliser la technologie pour permettre de mettre de la méritocratie au centre de ces systèmes-là et remettre un peu l'ascenseur social en marche. Et c'est aussi toute ma vision d'entrepreneuriat, c'est vraiment remettre l'ascenseur social en marche et permettre à ceux qui le veulent, qui sont motivés et qui se donnent, de pouvoir s'émanciper, et pas en 3 générations. La sienne, soit. Et du coup, voilà, donc j'ai lancé Mive. L'idée, c'était en fait des algorithmes de matching des algorithmes pour détecter des jeunes talents à fort potentiel qui avaient des parcours atypiques. Ensuite, des algos de matching pour bien matcher les talents avec les offres en fonction de leurs compétences, j'allais dire hard skills, soft skills, leurs compétences dures, leurs compétences émotionnelles, communicationnelles, et enfin aussi leur motivation et leur style de management. Parce qu'effectivement, à 2 postes égales, dans 2 entreprises différentes, les missions peuvent être radicalement différentes, le style de management peut être radicalement différent, et aussi les perspectives de carrière complètement inversées. Donc là, il y a souvent un mismatch, et en gros, les jeunes ne réalisent pas, quand ils arrivent dans une entreprise, toutes ces différences et toutes ces évolutions possibles. Et c'est ce qui fait qu'il y a des gros turnover et que les jeunes ne restent pas dans l'entreprise et qu'il y a des déceptions des deux côtés. Et en gros, l'idée, c'était de créer ce produit qui permette justement de faire win-win-win. Donc win pour l'étudiant, qui matche bien avec un endroit qui lui plaît, win avec l'entreprise, qui trouve un jeune talent qui matche aussi et donc qui ne perd pas, et win pour la plateforme qui permet de grossir et d'avoir un plus gros impact pour plus de gens. Donc voilà un petit peu comment ça a démarré la première startup à 20 ans.
Dans tout ce que tu dis, Maxime, il y a la recherche de sens qui me paraît très fort, c'est-à-dire le dernier podcast que j'ai fait, là, c'était avec Anthony Bourbon, le CEO de Feed, où il disait que lui, effectivement, il était dans la rue et il a levé 40 millions et il disait que ça mettait 7 générations en France. Il nous a cité un livre pour aller chercher ça, pour changer. Donc c'était vraiment 1% des startups recevaient l'investissement pour les gens de la diversité et tout ça. Et donc du coup, qu'est-ce qui t'a fait déjà commencer à passer des soirées, à trouver ce sens et choisir, par exemple, d'aider les sans-domicile ou les enfants internationaux? Comment ça a commencé, ces ONG, on va dire?
C'était très interne, en fait. Ce n'est pas un événement déclencheur, comme on peut voir souvent. C'était vraiment profondément, chaque jour, je ressentais de l'injustice autour de moi. Moi qui suis du coup d'une famille plutôt classe moyenne basse, je fais toute ma scolarité dans le public jusqu'à mes 18 ans. Et je voyais en fait, c'était très divers, tu vois, autour de moi. Et je voyais qu'en fait, c'était de la souffrance. Mais de la souffrance des deux côtés. C'était de la souffrance du côté étudiant, élève, de la souffrance côté prof, parce qu'on est dans des classes avec 50 personnes, avec un prof qui est débordé, avec des élèves du coup qui ne peuvent pas s'épanouir complètement. Et du coup, c'est bénéfique pour personne. Et en fait, cette souffrance, je la ressentais tous les jours. Et pareil, quand j'ai cherché mon premier emploi à 15 ans, pareil, cette souffrance autour de moi, des gens qui galèrent. Et c'était plus ou moins inacceptable. Et petit à petit, chaque fois, j'essaie de mettre mon énergie à essayer de résoudre ça au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment pas un déclencheur qui m'a fait « Ok, ça, c'est franchement, c'est nul, il faut le corriger. » C'était vraiment se dire que « Ok, il y a plein de choses qui ne vont pas. » Sauf que si chacun met un peu sa pierre à l'édifice, on peut améliorer petit à petit en fait tous les systèmes. Parce qu'en fait, si chacun met un petit peu, c'est le système qui va changer entièrement et on va être dans un truc un peu plus bénéfique pour tout le monde.
Et tu as parlé de passer d'Orléans à Paris, ouais, qui a été assez clé pour toi à l'époque. Aujourd'hui, les conditions sont un peu différentes quand même. Donc même si on modèle des gens qui ont eu, comme toi, du succès il y a 6 ans, enfin, ça... Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, c'est toujours important pour quelqu'un qui est à Orléans d'aller à Paris, ou vu que le monde est digital, virtuel, plus tellement
J'ai envie que ce soit, ça ne l'est pas encore. Mmh. C'est encore important, malheureusement, d'être à Paris pour se connecter plus vite, pour aller plus vite. Tout l'argent, si tu veux entreprendre, à Paris, il y a tout l'argent, les VC, les investisseurs, les accélérateurs, tout se fait globalement 90% à Paris. Et c'est beaucoup plus dur pour ceux qui sont en région ou qui sont dans d'autres pays. Donc, c'est en train de changer. Le Covid, parmi toutes les causes négatives du Covid, malgré tout, ça a permis quand même de prendre compte de plein de choses. Déjà, on pouvait faire plein de choses cool depuis n'importe où et se développer où on voulait. Mais ça n'empêche que pour moi, aujourd'hui, ça reste beaucoup plus dur. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on développe des systèmes un peu décentralisés qui permettent à tout le monde de réussir où qu'il soit. Et plus de collaboration même inter-pays, parce qu'on parle de la France, mais typiquement, pouvoir avoir des gens en Europe de l'Est, au UK, aux US, ça va devenir la nouvelle norme et c'est ce qu'on essaie de pousser en tout cas.
Et cette première start-up, alors, elle était liée au plafond de verre, à cette intégration, émancipation des gens de la diversité avec hard et soft skills, les motivations, les styles de management, tout ça et tout. Donc, tu l'as vendu. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment ça s'est passé, la vente, et qu'est-ce qui s'est passé immédiatement après? Qu'est-ce que, du coup, tu as reçu une grosse somme d'argent à la fin et tu as commencé à investir, j'imagine. Dis-nous un petit peu quelle a été l'étape. J'imagine que c'est quelque chose que beaucoup de gens veulent vivre et ils n'ont pas idée de comment ça se passe, la vente aussi.
Ouais, complètement. Mais c'est toute l'épreuve du combattant, hein, pour le coup. En gros, moi, déjà, l'objectif de base, c'était pas du tout revendre la boîte au bout de 3 ans. Moi, je partais dans l'idée de construire une grosse société pérenne qui durerait dans le temps, qui se développerait loin et fort. Mais bon, tout se passe jamais, encore une fois, de façon linéaire ou comme prévu. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu... En fait, on dépensait énormément d'argent. En fait, on faisait rentrer beaucoup d'argent au niveau business. Et tout cet argent, en fait, on le réinjectait automatiquement dans la recherche et développement, dans la R&D. Pour en fait essayer de développer des algos de machine learning, des algos d'IA, pour vraiment mettre un socle tech fort et puissant, ce qui met quand même un petit peu de temps à développer. Et donc, en gros, on essayait de faire tourner ça le plus vite possible. Et petit à petit, on est arrivé à un moment en fait où on brûlait beaucoup de cash et qu'on allait avoir besoin du coup de faire des levées de fonds. Et en gros, contexte macro faisant, la levée de fonds, la deuxième levée de fonds, la deuxième grosse levée de fonds qu'on était censé faire, s'est vue corrompue pour plein de sujets réglementaires, macro, etc. Mais en gros, on a été un peu empêché dans cette levée de fonds. Et donc, ce qui fait que j'ai été retourné voir des corporates, donc c'est-à-dire des grosses entreprises avec qui on bossait, qui étaient clients chez nous et qui avaient proposé en fait de rentrer un peu au capital et d'essayer d'aider à le développement. Ce que j'avais toujours refusé au départ, puisque je trouvais un peu la relation startup corpo qui pouvait être un peu biaisée, un peu nocive. En France, on n'est pas encore assez habitué à faire travailler correctement les grosses entreprises et les startups, et j'avais très peur en fait de me faire corrompre et de me faire diluer ou alors utiliser d'une manière différente ou restreint d'ailleurs aussi dans l'évolution. Donc malheureusement, j'étais obligé de retourner les voir parce que j'avais plus trop le choix. Et là, ils m'ont dit, écoute, pourquoi pas, on pourrait être intéressé par investir. Je leur ai envoyé tous mes docs, je leur ai envoyé toute ma tech pour qu'ils l'étudient, pour évaluer combien ça vaut, pour savoir combien investir. Et ils reviennent vers moi, l'histoire un peu d'horreur, mais malheureusement que trop d'entre nous ont vécu. Ils reviennent vers moi en me disant, écoute, on a tout regardé. Nos ingénieurs ont fait de la rétro-ingénierie sur la technologie. On estime qu'on peut refaire la même chose que toi en 6 mois. Ce que j'avais fait en 3 ans. Et ils me disent, écoute, on te propose soit ce prix ridicule pour ta boîte, pour la tech, soit on lance là dans 6 mois et on t'éclate avec notre nouveau produit qui fera la même chose. Et sachant que eux, bardés, tu vois, c'est entreprise CAC, bardés d'avocats, des trucs, tu sens qu'ils rigolent pas. Et bref, moi je leur ai dit, écoutez, moi je viens de rien, j'ai pas peur de retomber à rien. Donc vous avez beau me dire compétition, bah let's go. Hein. Si vous croyez faire mieux, peut-être vous avez volé, vous avez récupéré de façon comme ça mes techs et me dire ok, on va copier-coller en changeant 2-3 trucs qui voilà. Je dis bah ok, allons-y. Je préfère mourir et faire mourir la boîte que vous la vendre à un prix dérisoire et en renvoyant en plus mes employés. Tu vois, c'était pas censé reprendre en prison. Donc je leur ai dit c'est mort. Bref. 8 mois de négociation plus tard, ils se sont réalisés qu'en fait, on avait un vrai aussi branding, une vraie façon de faire. C'était pas juste de la tech, en fait. Et c'est là où ils ont réalisé que c'est pas le produit. Et c'est ça que j'aime bien transmettre à Genius et à G-Ventures d'entrepreneuriat. C'est qu'en fait, ce qui fait l'essence d'une boîte, c'est pas la technologie, c'est pas forcément le produit. Pas seulement, en tout cas. C'est l'équipe derrière. Et comment vous portez le projet et votre vision pour le projet et vos façons de faire et votre façon d'engager les gens autour de vous pour faire avec vous. Et ça, je pourrais jamais trop insister là-dessus. Votre façon d'engager les gens sur votre projet, sur une mission, c'est un truc qui ne pourra pas être copié et c'est là où vous pourrez être unique. Et c'est ce qui nous a permis en fait de vendre à un prix honorable, on va dire, notre société fin 2018 du coup.
C'est une super histoire, hein, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est-à-dire, il y a la croyance, quand tu as fait une offre ridicule, de dire « moi, j'ai la croyance que ce n'est pas juste la tech et le produit, mais qu'on a un branding, qu'on a… » quelque chose derrière, la certitude et la prise de risque aussi d'être prêt à perdre. Alors, il y a plusieurs éléments quand même qu'on retrouve là au niveau de ton attitude et ta réaction par rapport à cette offre qui sont en apprentissage, je veux dire, pour tout le monde qui écoute, qui veut devenir entrepreneur ou qui l'est déjà, c'est sûr. Et donc, du coup, après la vente de cette entreprise, tu as touché une quantité d'argent intéressante et tu as pris des vacances et après tu as commencé à investir. Dis-nous un petit peu.
Ouais, ben j'ai pris déjà 2 semaines de vacances, ce que j'avais pas fait depuis 3 ans. Et franchement, ça a fait du bien de pouvoir se reposer la tête, se calmer, parce que franchement, c'est vrai que avoir la tête dans le guidon sur sa boîte, à penser à une chose. En fait, c'est la première chose à laquelle tu penses quand tu te réveilles. Tu bosses dessus toute la journée. La nuit, c'est la dernière chose à laquelle tu penses. Tu penses à tout ce que tu dois faire, parce qu'en fait, t'es une petite startup, t'as plein de choses à faire et t'as pas les ressources pour faire tout ce que tu voudrais faire. Et tu vois après les autres, les concurrents, tout le monde qui essaie de foncer. Et du coup, tu es un peu dans cette course psychologique plus que réelle qui est dure à gérer. Et donc, ça, moi, j'ai refusé en fait de prendre soin complètement de ma santé et de me dire « Ok, je mets ça de côté, je garde du temps pour moi au début. » Et j'étais « Ok, il faut que ça aille vite, je vois les autres qui avancent. » Et nuit et jour, j'étais là-dessus et je me réveillais la nuit en me disant « Ok, ça suffit, là, le bug qu'on n'a pas réglé, il faut que je le règle maintenant. » Et même moi qui n'étais pas tech et qui du coup ne pouvais pas mettre la pression sur des employés pour bosser la nuit ou quoi, et ben, je me réveillais et j'essayais de développer le truc moi-même et de réparer le bug moi-même du coup parce que je me disais « Ça ne peut pas attendre demain. Demain, on aura 50 000 autres urgences. » Et en gros, toute cette pression, toute cette accélération qui était exaltante hein, aussi, parce qu'on sentait que ça avançait, on sentait qu'on rendait service à des gens, eh ben, ça a fait un gros stop, une grosse pause quand ça a arrêté à la vente. Et franchement, ça a été une énorme respiration. Et j'ai réalisé qu'en fait, je ne m'appartenais plus, tu vois, et que j'étais dédié à mon projet et je ne m'appartenais plus. Et donc, ça me fait du bien. J'ai pris ma grosse respiration pendant 2 semaines et je me suis dit, écoute, je ne me sens pas de relancer un projet tout de suite. J'ai envie plutôt de rendre un peu à l'écosystème et de voir ce qu'on peut faire pour les autres personnes comme moi, pour qu'elles le fassent mieux que moi. Parce que typiquement, y a eu plein d'erreurs de fait, il y a eu plein de souffrances de subies. Et je me suis dit, OK, il faut que ça serve à quelqu'un, tu vois, il faut que ça serve. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que du coup, après 2 semaines de vacances, j'ai pris un job du coup à Station F, donc le plus gros campus de start-up en Europe, et pour gérer en fait le programme d'accélération dédié aux étudiants entrepreneurs. En fait, c'est un programme qui s'appelle Pépite Startup IDF, qui est dédié en fait aux jeunes de moins de 29 ans et qui ont le bac en France. C'est les critères officiels publics. Et en gros, l'idée, c'est que tu as des startups qui vont de l'idée à des startups qui sont déjà en levée de fonds, product market fit, et qui vendent et qui ont beaucoup de clients, et du CA. Et l'idée, c'était un peu prendre cette trentaine de startups tous les 6 mois et les aider à se développer correctement, à leur pointer les erreurs que moi j'avais fait ou que d'autres avaient pu faire, et d'agréger un peu tout ça. Et là, franchement, extraordinaire. Le pouvoir connecter de façon si intense avec des gens si passionnés sur autant de sujets, c'était fabuleux. Déjà, j'ai retrouvé en fait mon ouverture d'esprit et ma diversité, parce que c'est vrai que quand tu es sur un seul projet, ça peut être assez frustrant pour des gens qui, comme moi, aiment la diversité, aiment rencontrer des gens différents, aiment rencontrer des parcours, des projets, des passions différentes. Et du coup, c'était exaltant vraiment de faire ça, presque plus que la startup, paradoxalement. Et du coup, bref, pendant un peu moins d'un an, je me suis occupé de ce programme d'accélération. Et après, j'ai quitté pour faire 1 an et demi, jusqu'à maintenant, full indépendant, pour accompagner les jeunes à titre personnel.
Wow, donc, tu étais employé, tu faisais quoi concrètement dans ce programme?
Ouais, c'était le premier vrai job que j'avais qui a duré plus de 48 heures. et en gros, ce que je faisais, c'est que je devais structurer le programme d'accélération. Donc, c'est un programme qui durait 6 mois. Et en fait, je devais dire, OK, on va organiser des workshops, des formations à ce moment-là, sur quel sujet? Donc, il y avait 3 sujets. Il y avait le sujet organisation du programme, donc créer des formations, des workshops, des ateliers, des démodés, etc. Donc, pour les entrepreneurs, créer vraiment un parcours. Ensuite, il y avait l'aspect écosystème, connecter nos start-upers avec des acteurs pertinents de l'écosystème. Donc, c'est-à-dire, j'ai dû contacter tous les journalistes, j'ai dû contacter tous les investisseurs de France et de Navarre et leur dire, écoutez, on a des projets super, connectez-vous à nous et je vous envoie les sujets. Et en gros, petit à petit, je les connectais ensemble quand c'était le bon moment. Donc, en gros, mon rôle, c'était appeler les investisseurs, comprendre quand est-ce que eux, c'est pertinent d'investir dans les startups, appeler les journalistes, quand est-ce que c'est pertinent pour eux pour avoir quel type de startup, et en gros, les connecter au bon moment. Et dernier aspect, et évidemment, sur cet aspect, l'aspect aussi expert et mentor, on avait un pool de personnes expérimentées qui avaient déjà monté des boîtes, des choses, et l'idée, c'était aussi essayer de mapper dans sa tête les 300 personnes que tu as dans l'écosystème du programme et les connecter au bon moment aux bonnes personnes. Et dernier aspect, c'est l'aspect les aider ouais sur les problématiques stratégiques. Donc c'est-à-dire que j'ai décidé en fait, c'était très time consuming, ça prenait beaucoup de temps, mais j'ai décidé en fait de passer au moins 1 heure avec chaque entrepreneur toutes les 2 semaines, au moins 1 heure avec eux pour faire le point au niveau perso et pro, parce qu'on a remarqué en fait que finalement cette heure elle tournait plus sur du perso et que c'était essentiel et que en fait c'était toi, tu es passé par là, comment tu as fait, comment tu as géré ça? Et en fait, c'était ultra valuable parce que c'est des choses dont ils ne peuvent pas parler avec leurs investisseurs parce qu'ils seraient du coup à se dire, OK, c'est dangereux, le mec est en train de vriller ou il est plus stable ou il ne se sent plus bien ou alors il n'y croit plus, tu vois. Alors que franchement, c'est normal de ne plus y croire aussi par moment. Et c'est pour ça que ça permet en fait d'avoir une sorte de soupape, de permettre de s'extérioriser et de prendre du recul. Donc, je pense que c'était surtout ça mon rôle au sein du programme.
Et c'est là que tu as commencé à investir, j'imagine. Tu n'avais pas encore investi. Ouais. Et du coup, tu as investi dans combien, dans quel genre de boîte?
Ouais, j'ai investi. Bah là, aujourd'hui, j'ai investi dans 22 startups en business angel, principalement sur des jeunes entrepreneurs qui montent des projets tech et exclusivement des projets à impact. Donc, impact, ça peut être très large, mais l'idée, c'est qu'ils n'aient pas d'impact négatif et qui pousse le curseur un peu plus dans le bon sens. Donc typiquement, pour citer quelques boîtes, j'ai investi par exemple dans Reglo Pet Food, qui fait en fait des croquettes pour chiens à base de farine d'insectes, et qui permet en fait de réduire drastiquement la production de carbone en fait et des émissions de carbone dans la production animale et alimentaire. Et en fait, on se rend compte que tout ce qui est de la pet food, donc de la nourriture pour les animaux de compagnie, en fait, ça consomme, mais de façon incroyable. Et en gros, lui, il a trouvé un système voilà, technologique pour permettre de faire de la farine d'insectes saine, écologique, éthique et dans des packaging pertinents et fait en France. Et du coup, c'était vraiment soutenir un peu cette filière et ces entrepreneurs, du coup, pareil, tout jeune, qui avait 23 ans et qui se lançait.
Oh, y a quoi d'autre comme genre d'idée ?
Il y a plein de trucs. Après, il y a par exemple MySport Market. Donc ça, c'est une super boîte en fait qui donne une seconde vie aux produits de sport. Donc typiquement, les gens qui achètent une planche à voile, une planche de surf, des rollers, des shoes de running, des raquettes de tennis, et bien tout ça en fait, il se trouve que les magasins de sport, quand ils arrivent à fin de saison, et bien ça, au lieu de les donner ou de les quoi que ce soit, ils les détruisent. Et en fait, ils les détruisent. Parce que, enfin, voilà. Et parce que c'était plus rentable pour eux de détruire les produits non vendus que de les donner ou que de les vendre. Et donc, en gros, il y a une loi à la hauteur européenne qui est passée, donc la loi anti-gaspi, qui leur interdit de faire ça maintenant. Et donc, pour leur permettre de donner une seconde vie, du coup, à ces objets non vendus, MySport Market a créé la plateforme dédiée pour justement leur donner une chance d'être repris. Donc, ça veut dire que vous avez accès, en fait, à des matériels de sport pour des prix mais ridicules, accessibles à tous, de proximité sur votre Intersport, sur votre petit magasin de sport local, et tout ça en faisant du bien à tout le monde. Donc bien pour la planète, bien pour votre portefeuille, et pareil, un jeune fondateur basé à Montpellier, du coup aussi en région, et ultra heureux de le soutenir.
C'est génial de voir que ta mission, en fait, elle a continué d'évoluer depuis les soirées. À l'ONG, à les causes humanitaires, à monter ta boîte que tu as revendue et ensuite à le faire comme investisseur en choisissant les projets d'impact. Et maintenant, avec G-Ventures, où tu articules, j'imagine, le réseau d'investisseurs, mentors, formateurs et entrepreneurs que tu as créé à Station F pour permettre de maximiser en fait, cet impact. Le plafond de verre, tu l'as brisé plusieurs fois en gros en grandissant.
Bah, c'est ça, et j'essaie de le faire encore, hein. Il y en a toujours. Hein. Parce que là, typiquement, là, on se lance dans un énorme projet de lancer le premier fonds d'investissement étudiant de France. Mmh. Et pareil, l'âge moyen de quelqu'un qui lance un fonds d'investissement, c'est 45 ans aujourd'hui en France. Mmh. Et moi, j'en ai 26. Mmh. Ça suffit. Et donc, en gros, là, on va casser ce plafond de verre. On lance un fonds de 10 millions d'euros pour aider les jeunes qui se lancent dans leurs projets entrepreneuriaux. Et les gens qui vont distribuer cet argent, ce sera des étudiants et des jeunes diplômés également. Et en gros, ça permet plein de choses. L'idée, c'est qu'en fait, nous, on allait chercher de l'argent auprès d'institutionnels, de personnes fortunées, d'anciens entrepreneurs, de venture capitalistes. Ils nous ont donné cet argent. Et nous, en fait, on va créer deux choses. Donc, c'est-à-dire un programme de formation pour les jeunes pour l'investissement en start-up, pour bien comprendre comment une start-up doit se développer, quels sont les critères, comment regarder des fondateurs, avec toujours cette idée de impact by design, d'être conçu, en fait, dans l'idée d'avoir un impact positif et de pas faire du mal à l'écosystème autour de soi. Au sens large, hein, quand je dis écosystème. Et donc, cet aspect formation, on va former les jeunes et éduquer les jeunes étudiants, entrepreneurs et investisseurs à bonnes pratiques de l'investissement. Et de l'autre côté, on va mettre en pratique avec eux, donc c'est-à-dire on va leur donner de l'argent sous gestion et ils vont nous présenter leurs décisions d'investissement, nous les expliquer et on décide ensemble, du coup, si on soutient ce projet ou ce projet et de quelle manière. Voilà un petit peu l'objectif du nouveau plafond de verre qu'on essaie de briser.
Wow, une belle trajectoire et une belle mission toujours aujourd'hui qui avance hein, et qui se brise constamment. Qu'est-ce que c'est pour toi, Maxime, les habitudes qui t'ont permis le plus de créer l'intelligence émotionnelle ou les capacités? Je sais dans une autre interview que tu as parlé d'avoir de faire des choses en 15 minutes et d'être très productif et de faire plusieurs tâches en 15 minutes. Je ne sais pas si c'est une des choses que tu veux développer, peut-être de ta routine du matin aussi, je ne sais pas.
Ouais, bah écoute, complètement. Moi, quand j'étais ado, j'étais un gros flemmard, dans tous les sens du terme. Alors là, franchement, me lever tôt, la flemme. Faire les devoirs, la flemme. aller faire, enfin voilà, vraiment gros flemmard. Et je me disais, OK, l'effort minimum. Et en fait, j'ai vite réalisé quand je suis arrivé à 18 ans et que je commençais à faire 50 projets en même temps, que en fait, si je voulais vraiment faire avancer mes projets dans le bon sens et qu'ils tiennent la route, c'est-à-dire pas juste penser des trucs et les abandonner 2 minutes après, le nombre de personnes qui, comme moi, en fait, se passionnent par des sujets, les essayent pendant 2 semaines, 3 semaines et les abandonnent, le nombre de potes qui sont lancés sur le judo, sur le karaté, sur la guitare, sur le piano et qui abandonnent au bout de 3 semaines, eh ben, c'est tellement dommage parce qu'en fait, la vraie richesse et le vrai greatness, le vrai pouvoir, il se cache derrière le fait d'être consistant, de se créer des routines et de créer des habitudes. Et en fait, c'est ce fait d'être, il n'y a pas de secret. C'est pareil pour le sport. Si tu vas au sport pendant 2 heures, une fois par mois, parce que tu te motives une fois par mois, tu te dis, je vais faire comme un bourrin à fond, eh ben, ça fait pas d'effet concret. Par contre, si tu vas, OK, 15, 20 minutes, 30 minutes par jour, à ce moment-là, là, tu vas avoir des effets, je te le garantis. Et en fait, le fait de rebrander un peu sa vie sous forme de, OK, arrêter d'avoir la flemme, essayer de le calibrer de façon intentionnelle, c'est-à-dire se dire, OK, c'est pas aujourd'hui, j'ai envie de faire ça, donc je vais faire ça, se dire, OK, je me crée un rythme dans lequel je me mets. Et en gros, OK, tous les jours, je fais 15 minutes de piano, OK, tous les jours, je fais 15 minutes de gainage. Et petit à petit, en fait, c'est comme ça qu'on s'améliore petit pourcent par petit pourcent. Et en fait, ça fait très vite des trucs exponentiels. Hein, et ça peut vraiment, c'est le meilleur moyen de progresser d'après moi. Voilà.
J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit parce que chez Synapse, notre programme principal, c'est Power of Action, passer à l'action. Et cette idée que vraiment le vrai pouvoir, il est dans la consistance, il est dans la répétition, dans l'intensité qu'on met, la durée, bien sûr. Et que c'est quelque chose de conscient. C'est qu'on choisit en quoi croire, on choisit où mettre l'énergie, on calibre intentionnellement, comme tu l'as dit. Donc, c'est vraiment un facteur clé. Qui t'a permis d'arriver où t'es aujourd'hui, donc.
Complètement, franchement. Et c'est vrai que je l'ai poussé un petit peu peut-être à l'extrême. C'est vrai que là, je calibre mon temps sur des créneaux de 15 minutes. Parce qu'en fait, on essaie vraiment de pousser plusieurs projets en même temps. En fait, c'est vrai que beaucoup de gens vont vous dire que c'est important d'être focus sur un seul et même truc. Et franchement, c'est vrai. Ça peut être vraiment essentiel pour pouvoir faire avancer enfin des projets. Mais il ne faut pas se fermer et justement perdre son ouverture d'esprit et son ouverture de pensée. Toujours se garder un petit moment pour des side projects, se garder un moment pour sa famille, pour ses amis. Et ça, c'est ce qui fait que vous serez épanoui et que vous pourrez réussir au mieux dans les projets que vous voulez atteindre, c'est d'avoir toujours cette ouverture vers d'autres choses.
Et comme ton histoire l'a raconté, il y a eu des challenges tout au long, de la pression, des crises, de l'intensité, de ne pas prendre de vacances pendant 3 ans, ensuite 2 semaines. Aujourd'hui, Maxime, c'est quoi ton plus gros challenge aujourd'hui?
Mon plus gros challenge, c'est d'essayer de... C'est vraiment d'essayer d'engager les gens dans cette démarche. C'est d'essayer d'avoir de plus en plus de gens qui essaient de porter cette parole. Parce qu'on a, beau se dire, OK, on a trouvé notre équilibre personnel, familial, professionnel... Si les gens qui bossent avec nous, pour nous, autour de nous, eux ne sont pas dans cet équilibre, c'est problématique. Et si eux-mêmes n'arrivent pas à créer leur équilibre et à partager la façon de créer cet équilibre, je pense que c'est un problème. Parce que typiquement, le nombre de personnes en fait, qui, typiquement, là je lance J-Ventures, il se trouve que j'ai des personnes qui m'aident. Là typiquement, j'étais en deep work la nuit dernière jusqu'à 2h du matin. Et il se trouve que j'ai une stagiaire, une super stagiaire, qui en fait est restée pareil, éveillée jusqu'à 2h du matin. Et en fait, j'étais ultra gêné parce que moi, le lendemain, je peux me lever 8h plus tard pour me garantir mon créneau de sommeil concret. Mais elle, non, parce qu'elle doit se lever tôt. Et ça, c'est des trucs vraiment où je mets des gros warnings et je lui dis, écoute, te sens pas obligé de bosser jusqu'à 2h du matin parce que moi je le fais, parce qu'on n'a pas le même rythme et c'est important que toi, si tu te lèves, etc., que t'aies pas 4h de sommeil dans les jambes. Et c'est vraiment prévenir un peu cette idée de pression, de burn-out et faire en sorte que les gens le comprennent et le passent à d'autres gens. Et ça, c'est le plus important pour moi et c'est mon plus gros challenge aujourd'hui, c'est d'être intense, passionné et donner envie aux gens de rejoindre le truc sans pour autant qu'ils se tuent à la tâche et qu'ils arrivent à trouver leur équilibre aussi dans ça.
Parce qu'on pourrait se dire, oui, tu as levé les 10 millions, tu as la structure, tu as la méthodologie, c'est bon, maintenant c'est tranquille. Mais effectivement, il y a ce challenge de fédérer une communauté, de gérer l'humain, de gérer l'équilibre des gens autour de toi et que ça ait du sens pour tout le monde et de contribuer dans leur vie. Et si tu devais finir en donnant un message un peu plus général, imagine que l'humanité part sur Mars, la communication va être coupée et du coup, tu as des dernières recommandations aux gens qui nous écoutent, qui sont déjà peut-être entrepreneurs ou qui ont déjà un peu souffert et qui ont du mal à y repartir ou alors qui ont envie d'y être, mais ils sont dans un job corporate et voilà, ils ont du mal à donner les pas qu'il y a besoin pour la transition. Qu'est-ce que tu leur dirais?
Moi, je leur dis qu'il y a tout un monde à l'extérieur. Donc voilà, il y a Mars sur lequel aller, il y a toutes les merdes qui se passent sur Terre, le réchauffement climatique, les injustices sociales. Il y a toutes ces merdes aujourd'hui qui se passent en extérieur, sauf que la réalité, c'est que vous avez un monde à l'extérieur, un monde à l'intérieur. Et en fait, à partir du moment où en fait, vous cultivez votre monde intérieur de façon pérenne, vous pourrez amener cette pérennité dans le monde extérieur. Et en fait, le meilleur moyen justement d'essayer d'améliorer le monde et de s'améliorer soi, c'est justement de commencer par l'intérieur pour l'amener vers l'extérieur. Parce que si vous êtes en confrontation directe, en mode se dire « Ok, il se passe ça, c'est dur, c'est chiant, ça me fait du mal. » Moi, je le vivais vraiment tous les jours. Je sentais l'injustice au quotidien, je la voyais, je la ressentais, ça me faisait du mal. J'étais comme une éponge qui prenait toute la haine. Et du coup, par moments, j'avais juste envie de retourner un coup de poing, tu vois, et de dire « Ok, fuck, et on va tout casser et on va niquer ce truc-là. » En fait, c'est pas la bonne démarche. Il faut vraiment soi-même être en pérennité, savoir ce qu'on veut et qui on veut être. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir changer les choses derrière. Et c'est en montrant notre bienveillance qu'on pourra amener plus de bienveillance chez les autres et dans le monde. Voilà un petit peu.
Wow. Beaucoup de sagesse pour un jeune de 26 ans, de calibrer le monde intérieur de la bienveillance. Et effectivement, c'est ce en quoi on croit chez Synapse profondément, parce qu'on est là pour aider les gens à reprogrammer leurs croyances, donc vraiment à prendre soin des 11 piliers de leur vie et avoir cet équilibre pour qu'ils puissent être centrés, pour qu'ils puissent être au service et donc construire des choses pérennes, effectivement. Donc, je crois que c'est Jim Rohn qui disait déjà il y a très, très longtemps, travaille toujours plus dur sur toi-même que sur ton business. Donc vraiment, le travail sur soi, il vient avant d'influencer le monde externe et c'est un peu ça ton message final. Merci Maxime de ta présence aujourd'hui.
Merci beaucoup Alex et bon courage à tous et très beau projet. En tout cas, je te souhaite le meilleur.
Merci.